Professeur, j'ai toujours été étonné, voire agacé par cette lecture de saint Paul à Tite, qui a l'air d'être une petite leçon de morale un peu simple, qui nous invite à renoncer à l'impiété, aux convoitises, et à vivre de manière raisonnable. Alors que rien n'est raisonnable dans l'histoire du salut, tout est déraisonnable. Et si rien n'est contraire à la raison, rien ne se passe comme notre raison l'aurait envisagé. Qui aurait imaginé raisonnablement qu'une femme vierge d'Israël puisse concevoir de l'Esprit Saint ? Qui aurait raisonnablement pu dire que le Messie d'Israël et le Sauveur du genre humain viendrait dans un endroit aussi perdu et naître dans des conditions aussi précaires? En fait, rien n'est raisonnable dans cette histoire. Rien ne semble coller. Et précisément, c'est pour cela que peut-être Tite a raison, saint Paul a raison de recommander à Tite de vivre avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Parce que la manifestation de la gloire de Jésus, eh bien, il faut être un homme juste et pieux pour la capter. Celui qui est livré à l'ivresse et aux activités du monde, à ses jeux de pouvoir et de réussites humaines, celui-là qui est hypnotisé par le brillant et le clinquant de ce monde, celui-là passera à côté de la manifestation de sa gloire. Et précisément, ces bergers qui voient un ange, et ensuite, on nous dit, une troupe céleste innombrable. C'est-à-dire que c'est pas un petit truc, quoi. C'est quelque chose d'immense, de grand, de cosmique, qui mobilise la terre et le ciel. Mais vous voyez, les grands, les Jupiter et les Hérode dans leur palais ne voient rien. Ceux qui sont simplement occupés à faire leurs affaires, ceux-là ne voient rien et n'entendent rien. C'est qu'il y a dans cette manifestation de la gloire quelque chose qui est manifesté, c'est-à-dire qui n'était pas manifeste et qui se manifeste. Quelque chose qui n'était pas immédiatement captable et qui se rend perceptible aux cœurs attentifs. Il y a en fait de l'invisible, des liens invisibles qui semblent remonter en surface, effleurer la terre, se manifester, puis peut-être s'effacer à nouveau, de telle sorte que c'est seulement en méditant les choses dans son cœur que l'on garde la trace de ce qui est fugacement passé. Et on nous redira plusieurs fois de Marie qu'elle gardait et méditait toutes ces choses en son cœur. Car après cette naissance, l'épiphanie, il y a quelques décennies qui vont passer, et tout cela va retomber dans l'oubli, jusqu'à ce que Jésus se manifeste. Le premier signe qu'il accomplit à Cana, saint Jean nous dit, il manifesta sa gloire. Mais en attendant, tout cela est bien peu manifeste. Et pour être capable de saisir la parole de ces créatures invisibles que sont les anges, il faut un minimum d'esprit contemplatif. Il faut être capable de faire taire le bruit du monde pour entendre le chant du ciel. Alors ces hommes captent cette louange céleste et ils voient, ils vont aller à la crèche et avoir confirmation de la véracité de cette parole de l'ange. Il y a confirmation pour eux que cette voix des anges n'était pas une illusion, n'était pas quelque chose, simplement un fruit de l'esprit ou de leur imagination. Non, non. De manière tangible, c'est une dame qui a accouché là, C'est une grossesse qui est arrivée à son terme. Et un enfant dans des langes. C'est tangible. Ça fait du bruit. Il y a des odeurs dans cette étable. C'est du réel. C'est du charnel. L'invisible s'est manifesté pour nous amener à quelque chose de très concret. Les liens invisibles ne sont pas des liens irréels, frères et sœurs. Les liens invisibles sont parfois même des liens de chair et de sang. Il y a un lien entre terre et ciel que les anges, comme l'échelle de Jacob l'avait manifesté, ce lien-là est bien réel. Nous vivons à ciel ouvert, et si nous savons faire taire le bruit du monde et des actualités et de nos affaires, alors nous saurons capter la parole du Seigneur qui essaye de se glisser jusqu'au fond de notre cœur. Puis il y a les liens invisibles de la généalogie, de cette mère et de cet enfant, de cette mère qui a porté dans ses entrailles maternelles cet enfant. Il semble que, une fois que l'enfant est né, il est à distance de plus en plus de sa mère, et pourtant, il restera un lien invisible, mais bien réel. Quelque chose qui ne se rompt pas comme cela. Quelque chose qui ne se dissout pas dans les occupations du monde. Il y a des choses bien profondes en nous, invisible mais bien réel, qui ne saurait s'effacer. Nous sommes faits de cette vie invisible, trop souvent recouverte par bien des rumeurs, des bruits, des préoccupations, des soucis, peut-être par des douleurs aussi de notre vie, qui sont devenues trop centrales, obsédantes, qui ont peut-être alimenté une sourde colère et qui nous ont envahis. Mais précisément celui qui vient, cet enfant, il est venu habiter ces liens invisibles, nos liens humains, nos liens familiaux blessés, nos liens faits aussi parfois de trahison, de rupture douloureuse. Nous avons été offensés dans notre vie tous, nous le disons dans le Notre Père, ceux qui nous ont offensés. Il y a bien des liens humains qui ont besoin d'être guéris par celui qui est le Sauveur, le Consolateur d'Israël, le Seigneur victorieux du mal. Et cette manière si discrète de se glisser dans notre humanité, c'est le chemin qu'il emprunte pour rentrer sans effraction, sans nous bousculer, mais pour se rendre bien réellement là, là où se trouve la peine des hommes, là où se trouve leur souffrance et leur découragement, et pour leur redonner l'espérance. Cette année jubilaire, le pape François a voulu qu'elle soit mise sous le signe de l'espérance. C'est une grande et belle chose, l'espérance, que ce Seigneur qui vient à nous est venu restaurer. Il est venu rendre aux hommes qui sont repliés sur leur coquille et dans leur monde, comme résignés, une sorte d'éternel recommencement, une sorte de fatalité, de guerre, de fratricide et de recherche vaine. Il est venu faire une brèche, il est venu faire éclater la bulle et nous ouvrir le chemin du ciel, nous rendre l'espérance, nous arracher à la fatalité. Et il n'est pas au bout de ses peines et au bout du chemin, il le fera en perçant même le mur a priori infranchissable de la mort, lorsqu'il ressuscitera. Alors, nous nous retrouverons pour la saison 2 à Pâques, frères et sœurs, et nous pourrons célébrer le fait que cet événement de Noël est un porche d'entrée vers une marche victorieuse. Et puis nous aurons la saison 3, la Pentecôte, lorsque l'Esprit du Ressuscité nous sera donné en plénitude pour que nous-mêmes, nous vivions de sa victoire. Aujourd'hui, nous sommes comme des bergers, des êtres crottés et dépenaillés. Nous sentons le troupeau et bien que malodorants, nous entrons dans cette étable. Nous fléchissons le genou devant le roi des rois qui nous accueille dans son parvis. Il s'est bien mis à notre portée. Et si nous trouvons que pour un roi des rois, il est descendu trop bas et que nous aurions plutôt aimé être reçus dans un grand palais fait d'or et de cristal, alors c'est que nous pensons peut-être être de ceux-là qui vivent dans les palais des rois. Nous sommes tous des pauvres, des petits, en cette nuit de Noël, qui nous mettons à genoux à la portée de celui qui s'est mis à notre portée et qui allons adorer Dieu qui a pris notre humanité dans cet enfant. Évidemment, si nous sommes hautains, si nous faisons partie des ricaneurs de ce monde, alors nous passons à côté de l'invisible et ce mystère de Noël glissera sur nous. Mais si nous consentons à nous reconnaître petits et si nous disons que oui, 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 vraiment, moi aussi j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être arraché à la fatalité du mal et du péché et à la fatalité de la mort, de ma mort, puisque je mourrai de toute façon. Oui, j'ai besoin d'un sauveur, le seul qui puisse vaincre tout cela et m'attirer dans le palais du roi, dans le Saint des Saints, dans le temple de Dieu. Il faut descendre si bas, très bas, pour nous cueillir au sol et nous ramener vers la maison du Père. Les liens invisibles de cette terre, frères et sœurs, sont le langage par lequel le Seigneur nous parle. Et il y a pu y avoir dans nos vies peut-être des liens toxiques, des liens qui nous ont abîmés, des liens humains blessants. Mais en venant se placer dans ces liens, Jésus nous délie de ces liens néfastes pour nous rendre notre liberté. Et l'alliance qu'il fait avec nous est un lien nouveau, de vie nouvelle, qui nous restaure, qui nous rend notre liberté, qui nous libère des injonctions pécamineuses que nous avons subies, des traumas peut-être aussi, qui nous guérit des carences, de tous les manques dont nous avons souffert et nous souffrons encore. Il vient les combler, il vient se loger précisément dans tous les recoins de notre existence où il y a des blessures. Et dans ces recoins et ces zones ombragées, il vient apporter une claire et pure lumière qui guérit, qui adoucit ce qui était brutal et qui redonne confiance au cœur fragile et découragé. Seigneur, enfant Jésus, c'est une grâce, un signe qui nous est faite de te connaître. Pauvres bergers, pastoureaux que nous étions, tu nous as pris par hasard, sans que nous nous y attendions, et tu nous as fait le don de la foi pour que nous le transmettions. Seigneur Jésus, béni soit ton nom très saint, et c'est avec toi que nous allons dans cette Eucharistie nous tourner vers le Père, vers lequel tu nous ramènes comme à la maison. Nous allons glorifier le Père dans ce sacrifice d'action de grâce et nous allons ainsi prendre part à la louange invisible des anges Nous allons aussi, avec Marie et Joseph, être dans la gratitude profonde de ce que tu es venu visiter notre humanité, chacune de nos vies, dans ses recoins les plus profonds, pour faire toute chose nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi le victorieux, que nous adorons. Amen.